Vous écoutez France Culture.
Vous écoutez France Culture, 20h30. Tout de suite, le feuilleton.
Denis Diderot est né le 5 octobre 1713 à Langres. En cette année de tricentenaire, quoi de mieux que de faire entendre ses lettres à Sophie Volant. La chaleur et l'enthousiasme de l'homme des Lumières nous traversent de part en part. Cette histoire d'amour dura 30 ans. Lorsqu'il rencontre Sophie Volant en 1755, Diderot a 42 ans et elle 39. Il est marié, elle ne l'est pas. Elle vit avec sa mère, ils se voient peu, très peu, mais ils s'écrivent. Nous ne connaissons que les lettres de Diderot. Aucune lettre ni aucun portrait de Sophie Volant ne sont parvenus jusqu'à nous. Il ne reste d'elle qu'un bref testament, daté de 1784. Je donne et lègue à M. Diderot 7 petits volumes des essais de Montaigne, reliés en maroquin rouge, plus une bague que j'appelle ma Pauline. Angélique, la fille de Diderot, dira plus tard « Il se prit pour elle d'une passion qui a duré jusqu'à la mort de l'un et de l'autre. » Ils moururent la même année, en 1784, Sophie Volant le 22 février, Denis Diderot le 31 juillet.
Lettre de Diderot à Sophie Volant. Choisie par Hélène Bleskin et lue par Gabrielle Dufay. En direct du studio 111 de la maison de Radio France.
Je vous aime tous les jours et je ne distingue que celui où je me crois plus aimé.
Et je ne laisserai jamais croire à une autre que je la trouve aimable.
Sans savoir si je forme des caractères.
Venez.
Partout où il n'y aura rien, lisez que je vous aime. Quand on écrit des femmes, il faut tremper sa plume dans l'arc-en-ciel et jeter sur la ligne la poussière des ailes du papillon.
Troisième épisode.
17 août 1759. Me voilà parti. Me voilà à Chaumont. Me voilà à Berthenay. C'est un petit village rangé sur la cime d'un coteau dont la Marne arrose le pied. Le bel endroit. Me voilà à Vignory. Ma Sophie, quel endroit que ce Vignory. Mais les chevaux volent. Me voilà déjà loin de ce lieu. Me voilà à Provenchères. Autre enchantement. Je n'ai jamais fait une si belle route. Elle est fatigante pour les voitures. Il faut sans cesse descendre et monter. Mais elle est bien agréable pour le voyageur. Me voilà à Guémont. C'est de là que je vous écris, avec la plume du curé, tout ce qui me passe par la tête. Demain à Joinville, de bonne heure. À Saint-Dizier, à dîner. De Saint-Dizier à Hill, s'il se peut dans le même jour, ou samedi dans la matinée. Si c'est aujourd'hui jeudi, comme je crois. Car je ne sais jamais bien le jour que je vis. Je vous aime tous les jours. Et je ne distingue que celui où je me crois plus aimé. Il est à peu près 10 heures du soir. Mes draps sont mis, on me les a promis blancs. Ces gens-là ne me tromperont pas. Je dormirai donc tout à l'heure. Bonsoir, ma Sophie. Bonsoir, sa chère sœur. Si c'est demain jour de poste à Joinville ou à Saint-Dizier, ce griffonnage partira. Je ne pense pas qu'on me retienne à Hill. On paraît trop pressé de vous rejoindre. Dieu veuille que cet empressement dure. S'il était réel, mes délais ont dû l'augmenter. Mais on n'y connaît rien. Après-demain, Circé m'aura en sa puissance. Non, non. Ma Sophie me garde, et celui que ma Sophie garde est bien gardé. Bonsoir toutes les deux. À propos, vos dodos se touchent-ils encore? Je voudrais bien savoir cela. Je pourrais avoir à Hill des scrupules que cela m'aiderait à lever. Il me vient une bonne folie dans la tête, c'est que l'on me fera coucher dans votre chambre. Elle est capable de cet effort-là. Ne m'avez-vous pas dit qu'elle était parquetée? Mais j'y serai encore à demain, si je m'y opiniâtre. C'est comme si j'étais à côté de vous. Combien de fois je me suis levé et vous ai dit bonsoir à 9 heures et n'étais pas encore parti à minuit. On n'entend rien aux amants. Ils semblent n'être pas faits pour être toujours ensemble, ni pour être séparés. Toujours ensemble, on dit qu'ils s'useraient. Séparés, ils souffrent trop. Bonsoir, pourtant, et pour la dernière fois. Me voilà hors de ce village appelé Guémont. Je n'y ai pas fermé l'œil. Des bêtes, je ne sais quelles, m'ont mangé toute la nuit. Nous en sommes sortis à 6 heures, pas plus tôt. Les domestiques font à peu près avec moi ce qu'ils veulent. Nous avons fait notre 4 lieues et rafraîchi. Chemin faisant, nous avons laissé Joinville sur notre gauche. Elle est perchée sur un rocher dont la Marne arrose le pied et fait un fort bel effet. C'est une bonne compagnie que cette rivière. Vous la perdez ? Vous la retrouvez pour la perdre encore ? Et toujours, elle vous plaît. Vous marchez entre elle et les plus beaux coteaux. Nous avons rafraîchi à un village appelé Rachecourt. Je me suis amusé là à causer avec un vieillard de 90 ans. J'aime les enfants et les vieillards. Je regarde ceux-ci comme des êtres qui ont déjà beaucoup souffert et je les respecte comme des êtres singuliers que le sort a épargnés. L'hôtesse de l'endroit est une grosse réjouie qui dit que sacre Dieu n'est pas juré. Quand elle jure, je ne sais plus ce qu'elle dit. Il faut qu'on soit bien malheureux dans ce pays. Oh, combien on a de bénédictions pour 3 sols. On me prend toujours pour un homme d'église. On m'a appelé sa grandeur. J'ai répondu au premier, ce n'est pas moi, c'est ce cheval qui est grand. J'étais déjà bien revenu des colifichets. Je le suis bien davantage. Mon cœur s'émeut de la façon la plus douce quand mes semblables me bénissent. C'est le petit château qui sera une maison bénie. C'est là que, sans glace, sans tableau, sans sofa, nous serons les mortels les plus heureux par le bien que nous ferons et par celui qu'on dira de nous. Et quand on se tairait, le serions-nous moins ? Une bonne action qui n'est connue que du ciel et de nous, n'en serait-elle pas plus belle encore ? J'aime à croire, pour l'honneur de l'humanité, que la terre en a couvert et en couvrira une infinité avec ceux qui les ont faites. J'aime la philosophie qui relève l'humanité. La dégrader, c'est encourager les hommes au vice. Quand en comparant les hommes à l'espace immense qui est sur leur tête et sous leurs pieds, j'en ai fait des fourmis qui se tracassent sur une topinière, il me semble que leur vice et leur vertu, se rapetissant en même proportion, se réduisent à rien. Me voilà à Saint-Dizier. Il n'est 1h30. Si ma Sophie était à Ille, j'y arriverais sûrement ce soir. Mais elle n'y est pas, et je coucherai sûrement à Vitry, ou ailleurs d'où je continuerai à lui griffonner encore un mot. Demain, je serai au lever de Madame votre mère. Le cœur m'en bat d'avance. On prépare mon dîner. Et en attendant, je vais vous faire part d'une petite aventure qui m'est arrivée à Langres dans les derniers jours. Nous avons là une marquise de la Fare qui n'est pas la moins spirituelle et la moins folle de nos dames, qui le sont pourtant assez. Elle s'appelait auparavant Mademoiselle de Rouvre. Elle m'est venue voir le matin. Le matin, presque dans mon lit. Notez cela. Nous sommes tombés fous l'un de l'autre. Nous avons arrangé la vie la plus agréable. Elle viendra passer 9 mois à Paris. Les 3 autres, nous irons les passer à Langres ou à Rouvre, comme il nous conviendra. Elle m'écrivit, le lendemain de cette entrevue, un billet doux pour me rappeler mes engagements et me demander des vers pour une présidente de ses amis, dont c'était la fête le lendemain. J'ai répondu à cela avec le plus d'esprit possible, le moins de sentiments et le plus de cette méchanceté qu'on n'aperçoit pas. Cela disait... « Ordonnez-moi ce qu'il vous plaira, mais ne m'ordonnez pas d'avoir autant d'esprit que vous. Réchauffez mon esprit et mes sens, et j'oserai alors vous obéir. » Pour vous expliquer la valeur de ce « j'oserai », il faut que vous sachiez que cette marquise a toujours eu un mari libertin qui n'avait pas la réputation de se bien porter. C'est à ce propos que ma sœur, à qui elle disait « Mademoiselle, pourquoi ne vous mariez-vous pas ?» lui répondait « Madame, c'est que le mariage est malsain. » À ce soir, encore un petit mot, mon ami. Je vais manger 2 œufs frais et dévorer un pigeon, car j'ai de l'appétit. Le voyage me fait bien. C'est cependant une sotte chose que de voyager. J'aimerais autant un homme qui, pouvant avoir une compagnie charmante dans un coin de sa maison, passerait toute la journée à descendre du grenier à la cave et à remonter de la cave au grenier. Tout ce griffonnage d'auberges dont vous ne vous tirerez jamais vous sera dépêché demain de Vitry à l'adresse de M. Berger. J'allais faire une bonne sottise. Je croyais qu'il fallait passer à Vitry au sortir de Saint-Dizier et, point du tout, je suis à la porte de la maison. Dans 2 heures d'ici, je parlerai à votre mère. Le cœur me bat bien fort. Que lui dirai-je? Que me dira-t-elle? Allons, il faut arriver. Adieu, ma Sophie. Je me recommande à vos souhaits. À vendredi. J'oubliais de vous dire que je ne fis point les vers demandés et que je suis parti sans rendre la visite à ma marquise. Ile, le 18 août 1759. J'y suis, mademoiselle, dans ce séjour où je me suis fait attendre si longtemps. La chère maman avait la meilleure envie de me gronder, c'est-à-dire le plus grand empressement à vous rejoindre. Mais vous savez combien en même temps elle est indulgente et bonne. Je lui ai dit mes raisons, elle ne les a pas désapprouvées, et nous avons été contents. Il était à peu près 6 heures lorsque la chaise est entrée dans l'avenue. J'ai fait arrêter, je suis descendu, je suis allé au-devant d'elle, les bras ouverts. Elle m'a reçu, comme vous savez qu'elle reçoit ce qu'elle aime de voir. Nous avons causé un petit moment d'un discours fort interrompu, comme il arrive toujours en pareil cas. « Je vous espérais ce jour-là. »« Je le voulais, mais cela ne m'a pas été possible. » »« Et cet autre jour-là, comment le refuser à un frère, à une sœur, qui l'ont demandé ?»« Vous avez eu bien chaud. » « Oui, surtout depuis Perthes, car j'avais le soleil au visage. »« Bien fatigué ?»« Un peu. »« Votre santé me paraît bonne. Je vous trouve le visage meilleur. Et vos affaires, tout s'est arrangé ?»«
Tout est arrangé. »«
Mais vous avez peut-être besoin d'être seul. Venez, je vais vous mener chez vous. »
J'ai donné la main et l'on m'a conduit dans la chambre du clavecin où je suis resté un petit moment. Après lequel je suis rentré dans le salon où j'ai trouvé la chère maman qui travaillait avec Mademoiselle Desmarets. Le soleil était tombé, la fin du jour très belle. Nous en avons profité. J'ai encore salué la Marne, ma compatriote et fidèle compagne de voyage. C'est là que j'habiterai, c'est là que je rêverai, que je sentirai doucement, que je dirai tendrement, que j'aimerai bien. Que je sacrifierais à Pan et à la Vénus des champs, au pied de chaque arbre, si on le voulait, et qu'on me donnât du temps. Vous direz peut-être qu'il y a bien des arbres, mais c'est que quand je me promets une vie heureuse, je me la promets longue. Comment pouvez-vous supporter la vue de vos symétriques Tuileries et la promenade de votre maussade Palais-Royal, où tous vos arbres sont estropiés en tête de chou et où l'on étouffe ? Quoiqu'on ait pris tant de précautions en élaguant, coupant, brisant, gâtant, pour vous donner un peu d'air et d'espace. Que faites-vous où vous êtes ? Vous feriez bien mieux de venir que de nous appeler. Le sauvage de tous ces lieux que la nature a plantés est un sublime que la main des hommes rend joli lorsqu'elle y touche. Ô main sacrilège ! Vous la devintes lorsque vous quittâtes la bêche pour manier l'or et les pierreries. Je l'ai vu, nous nous y sommes assis. Nous y avons aussi causé dans ce petit kiostre que vous avez consacré par vos idées. Car c'est là, madame, qu'on m'a dit que vous vous retiriez souvent pour être avec vous. Venez vous y réfugier encore. Le mortel qui vous estime et qui vous respecte le plus passera sans aller vous y interrompre. Venez. Il ne vous faut plus qu'un moment dans ce lieu solitaire pour concevoir que l'être éternel qui anime la nature qui est autour de vous, s'il est, est bon. Et se soucie bien plus de la pureté de notre âme que de la vérité de nos opinions. Et que lui importe ce que nous pensons de lui, pourvu qu'à nous voir agir, il nous reconnaisse pour ses imitateurs et pour ses enfants. Nous sommes rentrés un peu tard. La rosée, chose que vous ne connaissez peut-être pas, mouille les plantes sur le soir et les rafraîchit de la chaleur du jour. Sans elle, nous nous serions peut-être promenés plus longtemps. Nous nous sommes un peu reposés dans le salon. Chemin faisant, j'ai entretenu votre mère de mes arrangements domestiques. Nous avons parlé de ses chères filles. Nous nous sommes attendris sur la mère et l'enfant. La chère maman, à qui je témoignais mon inquiétude sur votre santé, m'a remis deux de vos lettres. J'en reçois aujourd'hui une troisième avec des plumes, de l'encre et du papier pour y répondre. Et je n'en fais rien. Je laisse tout pour vous marquer le plaisir que j'ai d'être dans un lieu que vous avez habité. Ne nous y retrouverons-nous jamais tous, avec des âmes bien tranquilles et bien unies? Il serait tout élevé, tout bâti, ce petit château idéal. Nous nous sommes couchés de bonne heure. Le lit m'a paru excellent, et il n'a tenu qu'à vous que j'y passasse la meilleure nuit. Mais cet arrêt dont je n'avais point entendu parler m'est revenu par la tête et m'a un peu tracassé. Si vous n'étiez pas à la ville, il faudrait l'oublier. Et puis le spectacle de la douleur qui vous environne et que mon imagination grossit, et ce frère de Monsieur de Prisy, et tant d'autres victimes, et la nation, et les impôts, nous y retournons pourtant dans ce lieu de tumulte et de peine. Demain à Châlons, où Monsieur le gendre nous attend, et mercredi dans la matinée, je l'espère, à Paris, qui, malgré tout le mal que j'en pense et que j'en dis, est pourtant le séjour du bonheur pour moi. À mardi, madame. À mardi, mademoiselle. Mardi, je vous rendrai la chère maman, et vous m'aimerez bien. Cette chère et attentive maman est venue passer la matinée avec moi. Elle m'a prévenu, et nous avons causé de vous. Nous en parlerons souvent sur la route. C'est un sujet d'entretien qui nous est également cher. Puisque j'ai encore un moment, je vais, mademoiselle, répondre à vos lettres. Ne me recommandez rien sur l'empressement que nous avons à vous rejoindre, ou envoyez-nous des ailes. J'ai joui de tous les plaisirs que vous me peignez, et si je n'ai pas à beaucoup près l'embonpoint que vous me supposez, je me porte bien, et j'espère réparer le temps perdu sans exposer ma santé. J'apprends avec plaisir que la santé de Madame Legendre se refait. Si la vie est une chose mauvaise, la raison qui nous soumet à ces traverses en est du moins une bonne. Continuez vos promenades au Palais Royal. Dissipez cette chère sœur. Dissipez-vous. Oui, ma Sophie. Oui, elles me paraîtront toujours délicieuses. Oui, nous les renouvellerons encore. Nous interrogerons nos âmes. Et contents ou mécontents de leurs réponses, nous aurons du moins la conscience de n'avoir rien dissimulé. La vôtre est-elle toujours bien pure? S'il y avait quelque chose là qu'il fallût vous pardonner, je le ferais sans doute, mais il m'en coûterait beaucoup. Je suis si accoutumé à vous trouver innocente. Voilà une phrase singulière. Mais d'où vient donc que les expressions les plus honnêtes sont presque devenues ridicules? En vérité, nous avons tout gâté, jusqu'à la langue, jusqu'aux mots. Nous passons la journée ici. Nous l'avons commencé fort doucement, comme je vous ai dit. Demain, nous irons nous emmesser à Vitry et passer le reste du jour dans l'habitation de la chère sœur. J'aime les lieux où ont été les personnes que je chéris. J'aime à toucher ce qu'elles ont approché. J'aime à respirer l'air qui les environnait. Seriez-vous jalouse, même de l'air ? Vous me pardonnerez d'avoir omis une poste sans vous écrire, et cela ne doit pas vous coûter beaucoup. Au reste, c'est comme de coutume. Ce sont toujours les fautes que je ne commets pas pour lesquelles je vous trouve de l'indulgence. Avec quelle chaleur votre sœur m'accuse ! Comme elle dit ! Quelle couleur ont ses expressions ! Comme elle dirait si elle aimait ! Comme elle aimerait ! Mais par bonheur ou par malheur, cet être singulier est encore à naître. Je n'ai point commis d'imprudence là-bas. Rassurez-vous, j'ai quelquefois souri à certains propos, mais c'est tout. Vous avez vu le baron au palais royal. Il est donc à Paris. Cet homme se ballotte. Il est mal avec lui. C'est comme cela qu'on n'est bien nulle part. Je me reproche de ne lui avoir écrit ni mon départ, ni mon séjour, ni mes arrangements, ni ma vie, ni mon retour. Grimm et ma Sophie ont tout pris. Mais peut-être ne s'en est-il pas aperçu. De temps en temps, je me tracasse sur des choses que je sens et que j'aperçois tout seul. Pourquoi cette curiosité sur cette lettre de Grimm ? Espérez-vous y trouver l'excuse de votre sœur et la vôtre ?
Tenez, ne faites plus de fautes. Quand vous les réparez, vous les aggravez.
Je m'y attendais. Et je ne saurais vous dire combien ce reproche me touche doucement. N'y a-t-il point de mal à vous demander ce que c'est que cette belle dame qui s'intéresse à moi et à qui je ne m'intéresse guère puisque je ne la remets pas ? Mais il en est une autre qui m'a suivi jusqu'ici. Je n'ai que faire de vous la nommer. Votre mère m'en parlait hier à table et m'examinait, je crois. Et je crois aussi que mon discours et mon visage étaient un peu embarrassés. C'est que je ne saurais parler à moitié. Il faut que je dise tout ou rien.
Il me dit des choses tendres, douces. Il les sent, il les pense, mais n'en dit-il qu'à moi ?
Belle occasion pour mentir. Mais pourquoi faire de ces questions ?
Il me prend envie de prendre votre ton léger.
Mais je ne saurais.
Non, mademoiselle, je n'aime que vous. Je n'aimerai jamais que vous. Et je ne laisserai jamais croire à une autre que je la trouve aimable sans me le reprocher.
N'allez-vous pas dire encore de cette phrase qu'elle convient également à l'innocent et au coupable ? La remarque que vous faites sur la circonspection des méchants n'est pas juste. Et puis quand elle le serait, qu'est-ce que cela me fait ? Je n'ai pas été circonspect, je me suis laissé aller tout bonnement. Et les méchants ne font pas ainsi. Je suis bien aise que vous... Madame Legendre, Mademoiselle Boileau, me désiriez. Mais pourvu que ce ne soit pas pour vous mettre d'accord. Je n'entends rien, ni en fausseté, ni en hypocrisie. Je me souviens seulement d'avoir lu une fois sur la table d'un docteur de Sorbonne ces deux mots. Humilité, pauvre vertu. Hypocrisie, vice, dont il ne serait pas difficile de faire l'apologie. Vous les avez tous vus, vous les reverrez encore. Je n'en suis pas en peine. Adieu, madame. Adieu, mademoiselle. Ni moi non plus, je ne finirai pas sans vous renouveler les protestations que je vous ai faites si souvent et qui vous ont autant plu à entendre qu'à moi à vous les offrir, parce qu'elles sont vraies et qu'elles le seront toujours. Vous m'aimez donc bien ? Rappelez-vous tout et faites vous-même ma réponse. Mon respect à Mademoiselle Boileau. Tout ce qu'il vous plaira à Madame Legendre. Je n'oserais presque plus lui parler. J'en dirai trop ou trop peu. Et ces mots sont peut-être dans ce cas.
Lettre de Diderot à Sophie Volant. Choisie par Hélène Bleskine et lue par Gabriel Dufay en direct du studio 111 de la Maison de Radio France. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière. Prise de son et mixage, Bruno Mourlan et Bastien Varigaud. Assistante à la réalisation, Louise Loubrieux. Réalisation, Cédric Ossier.
Vous pouvez réécouter et podcaster le feuilleton sur le site fiction.franceculture.fr.
France Culture, c'est pour vous.